France Musique.
Merci à vous Christophe Bourseiller, nous vous retrouvons dimanche prochain à 17h, évidemment sur France Musique.
Les menus plaisirs de Bruno Mantovani.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de mes menus plaisirs. Dans la trajectoire qui conduit au plaisir musical, il y a de nombreuses étapes incontournables. Évidemment, le premier acteur dans la création du plaisir est le compositeur. Ensuite, c'est l'interprète qui entre en piste chargé de matérialiser la partition, de lui donner réellement vie en convertissant le signe en son. Enfin, l'auditeur reçoit l'objet musical et transforme les ondes reçues par ses oreilles en émotions. Tout semble logique dans ce résumé de trajectoire, si ce n'est qu'il manque une personne importante pour que l'auditeur ait accès à la musique. Il s'agit du programmateur. C'est lui qui combine les œuvres à l'intérieur d'un concert, qui bâtit une saison, qui met en relation les compositeurs, qu'ils soient vivants ou morts, avec les interprètes, qui incite ces derniers à ne pas s'installer dans le confort facile et les engage à s'orienter vers la découverte. C'est donc un acteur essentiel du plaisir musical car il est à la fois un déclencheur, un cadre, une condition sine qua non et un déterminant. J'avais donc envie de recevoir un programmateur dans cette émission, surtout que celui qui est en face de moi vient d'hériter d'un nouveau joujou qui a beaucoup fait parler de lui depuis quelques mois. En effet, Emmanuel André, puisqu'il s'agit de lui, s'occupe depuis quelques années de donner une identité forte à la Cité de la Musique et à la Salle Pleyel, et maintenant à la Philharmonie de Paris. Cette salle extraordinaire qui a fait tellement couler d'encre avant son ouverture est devenue, pardonnez-moi l'expression, « the place to be » comme disent les Anglais, et les taux de fréquentation du lieu attestent déjà du fait que cette salle était une nécessité dans une ville comme Paris. C'est donc un des pilotes avec le grand Laurent Bell d'un paquebot flambant neuf que je reçois, quelqu'un qui, par sa politique d'invitation et de programmation, cherche à créer le plaisir pour que tous les spectateurs puissent accéder aux chefs-d'œuvre d'hier et d'aujourd'hui dans la plus grande des cohérences et des nécessités. Bonjour Emmanuel.
Waouh! Alors là, vraiment, je suis très impressionné d'entendre des mots comme ça. Merci Bruno. Effectivement, le plaisir, c'est quelque chose de capital. Si je peux déjà réagir à chaud, parce que c'est d'abord une très grande chance de faire un métier comme celui-ci. Programmer des musiques avec des artistes qui ont des rêves et essayer de leur donner un corps. Essayer de quelquefois aussi d'avoir le plaisir de commander des œuvres. C'est un rêve qu'on essaye de matérialiser. Et puis quand la magie opère, alors là, c'est la grande récompense. Je voulais juste revenir peut-être sur la chaîne que vous avez décrit, que tu as décrit. Je ne sais pas d'ailleurs si on se voit, si on se tutoie.
Alors, la tradition en France Musique, c'est de se vouvoyer. Mais on a tellement travaillé ensemble, on se connaît depuis nos études au conservatoire, qu'aujourd'hui, puisque c'est une des dernières émissions, on va s'octroyer le plaisir de se tutoyer à l'antenne. Voilà. Donc, tu disais...
Tu parlais du compositeur qui commence dans cette longue chaîne du plaisir. Moi, j'ai l'impression que c'est presque un rond plutôt qu'une chaîne. Enfin, une chaîne peut être ronde aussi, mais le compositeur aussi pense à son public quand il écrit. Et peut-être que cette idée de la trajectoire, en fait, a des sens multiples. On est toujours surpris par le plaisir qu'on observe, qu'on essaie de créer ou qu'on prend au passage. C'est vraiment quelque chose d'assez saisissant et finalement insaisissable, le plaisir aussi.
Alors, est-ce qu'il y a des recettes sûres pour avoir, je dirais, un stimulus du plaisir quand on programme des œuvres ? Est-ce que tu as des automatismes ou des figures de style, comme on dirait d'un écrivain ou d'un compositeur, qui t'assurent un plaisir minimum dans la transmission au public ?
Alors, j'ai souvent comme guide, je pense pas qu'il y ait de recettes, hein, en clair, mais comme guide, le fait que... si j'ai un désir d'une expérience, c'est un bon indicateur. Après, ça peut échouer. Il peut y avoir une expérience et à l'arrivée un plaisir différent. Mais en tout cas, je pense pas ou j'ai pas en tête de moment magique sans qu'il ait été attendu. Et finalement, un projet qui ne fait pas envie, ni aux uns ni aux autres, où on se force, où on sent qu'il y a un problème dès le début. Je pense que jusqu'au bout, on le paye. Et on peut le faire, bien sûr. On peut avoir une forme automatique de programmer, de jouer, de composer, très probablement, de vivre, de manger, de faire des multiples choses. Mais je pense que même si ça peut rassurer, il n'y a pas ce danger qui, je crois, est l'épice et le sel du plaisir.
Alors, pour avoir travaillé avec toi en tant que musicien, je sais que tu aimes les rencontres improbables. Et le premier exemple que tu as choisi pourrait être une rencontre improbable entre Lang Lang, le pianiste star, et Christophe Eschenbach, chef d'orchestre, pianiste, à l'époque à la tête de l'Orchestre de Paris, dans un concerto de Beethoven de surcroît, le quatrième, avec un deuxième mouvement qui est une des œuvres les plus énigmatiques, les plus touchantes de l'histoire de la musique. Alors, tu étais peut-être derrière une partie de cette rencontre, mais je voudrais que tu nous en parles et de savoir pourquoi ça a été ton premier choix.
Parce que dans ce concerto, on a l'impression qu'on est sur deux planètes. Et pour moi, quelquefois, c'est aussi un peu le plaisir de l'inattendu, c'est-à-dire se sentir si loin et finalement converger. Avec ce que j'adore dans ce concerto, c'est à un moment, quand les deux parties se rapprochent, c'est comme un couple, il y a un vertige immense, et on a l'impression qu'on est au bord d'une falaise et qu'on va chuter, plonger presque comme en parachute dans une dimension qu'on connaît à peine sans repère. Et ce duo entre Eschenbach et Lang Lang est... C'est vrai, à l'affiche, semble improbable. Entre un chef qui est un immense pianiste, qui accompagne donc un pianiste, mais qui est un chef assez autoritaire, qui fait dans le grand, qui est dans une sorte de profondeur assez marmoréenne, et Lang Lang, qui est, aux yeux de certains, plus un pianiste du spectacle qu'un pianiste de l'intérieur. Eh bien, finalement, quand j'ai essayé de choisir une des versions qui me semblaient les plus aventureuses, je suis tombé sur ce couple improbable. En plus, sachez-le, ils s'adorent mutuellement. Ils font du deux pianos et du quatre mains, ce qui ne se sait pas beaucoup. Mais je pense que c'est finalement un très bon signe que même quand on est différent, on arrive à se retrouver.
me suis posé beaucoup de questions en écoutant ce deuxième mouvement du quatrième concerto de Beethoven, cher Emmanuel, parce que les cordes étaient extrêmement véhémentes, précises, vibrées, larges, presque opératiques, et le piano d'une grande sobriété, d'une finesse absolue, avec justement ce dernier mi qui arrive très très tard. Je me suis demandé si c'était pas Lang Lang qui dirigeait en fait et Christoph Eschenbach qui jouait du piano. Mais non, je vérifie, il s'agit bien de Lang Lang au piano et de Christoph Eschenbach qui dirige. Tu parlais tout à l'heure de rencontres entre les opposés, on est quasiment dans l'inversion de rôle, c'est très surprenant, très déstabilisant ce mouvement, je trouve.
Incroyable, c'est tendu, c'est d'une subtilité folle, vertigineuse, je trouve. Et quand on connaît Christoph Eschenbach, chef et pianiste, on est aussi dans cet extrême personnel, c'est-à-dire qu'il joue du clavier presque à l'inverse de son style de direction qui est très très monumental, on pourrait dire, pas dans un mauvais sens, hein, mais qui cherche le grand, l'agrandissement, alors que dans le style pianistique, il est dans une subtilité, il murmure très souvent avec un son absolument incroyable. C'est, je pense, pour une raison comme celle-ci, qu'il adore, je pense, Lang Lang. Lang Lang, on le connaît parce qu'il est démonstratif, parce qu'il s'amuse, parce qu'il transgresse. Personnellement, ça ne me déplaît pas. D'autant qu'il a un son absolument incroyable. Il arrive à faire scintiller, comme... Alors, je suis très très loin dans d'autres comparaisons, mais Mme Pressler, qui maintenant a passé la barre des 90 ans, mais qui, je pense, a le même sentiment, le même goût qu'un son, même simple, puisse dire quelque chose d'extrêmement riche. Ça, c'est quelque chose qui me renverse totalement.
Alors, continuons avec les jeunes scintillants, puisque nous allons écouter un jeune chef d'orchestre, à savoir Raphaël Pichon, à la tête de son ensemble Pygmalion, dans la messe 232 de Jean-Sébastien Bach, un compositeur qui est pour toi aussi, je dirais, une référence. Alors, c'est un peu facile de penser que Bach est une référence, mais on a toujours une forme de pudeur à amener Jean-Sébastien Bach quand on doit présenter quelques enregistrements qui seraient un peu les enregistrements qu'on aimerait sur... qu'on amènerait sur une île déserte.
Alors, j'ai aucune pudeur de ce côté-là. Je l'assume totalement. C'est un alpha, c'est un oméga. J'ai tous les plaisirs réunis dans Bach. Donc, et je ne pense pas d'ailleurs être le seul. C'est presque banal de le dire. Ceci dit, c'est intéressant de savoir pourquoi on a cette somme de plaisir dans sa musique. Je trouve qu'il y a à la fois la science, l'art de la combinaison, la maîtrise ultime, mais aussi la vie, mais aussi quelque chose de très intense, de très sincère, qu'on a quelquefois tendance à voir disparaître sous justement cet aspect savant. Et cette alliance des deux, mais qu'on retrouve chez d'autres, hein, chez Berlioz, je le sens exactement de la même manière, chez Boulez aussi. On a cette alliance des contraires qui me touche particulièrement. Et je trouve que dans la jeune génération, le travail que fait Raphaël Pichon est exemplaire parce que il fait vibrer cette musique, même si, par contre, il n'y a pas beaucoup de vibrato dans ses cordes, mais elle scintille grâce au texte et grâce à l'articulation de la musique qui prend un rebond, une sorte d'envol spontané, frais, que j'adore.
Thank you.
Le Kyrie de la messe 232 de Jean-Sébastien Bach par l'ensemble Pygmalion, dirigé par Raphaël Pichon. Emmanuel André, en fait, puisque je rappelle que tu es en ma compagnie aujourd'hui, tu veux faire une émission sur la clarté, j'ai l'impression, parce qu'on entend ici absolument tout, y compris l'articulation de Kyrie et Eleison, la clarté des voix, la clarté du non-vibrato, mais qui n'est pas non plus abrupte ou aride. On a une espèce là de version d'une lisibilité, d'une transparence, comme on l'a assez rarement en tête. Si on écoute par exemple les grandes versions, une merveilleuse version d'Herbert Don Karajan qui est juste l'opposé de ça et qui est tout aussi belle. Mais là, on est dans une transparence que j'ai rarement entendue, je dois dire.
C'est très juste. Je n'avais pas mis un mot comme ça aussi juste sur mon ressentiment, sur mon attraction pour cette version. Je pense que c'est transparence de la complexité. C'est-à-dire sentir qu'il y a un monde complexe qui puisse se lire, s'entendre, sans s'analyser forcément, mais en tout cas avoir cette somme de dimensions qu'on peut appréhender d'un seul coup d'oreille. Et ça, j'aime ce vertige-là. Effectivement, on le ressent dans d'autres, chez d'autres interprètes ou dans d'autres œuvres. Mais quand on n'a que cette transparence, et qu'il peut y avoir une forme de vide qui se développe, ou au contraire, les œuvres très fusionnées, où on a l'impression qu'une grande sauce vient gommer cet étagement des éléments, peut-être qu'effectivement, j'ai moins de vibrations personnelles quand on s'achemine vers un côté plus monolithique.
Il y a dans cette version, moi, une chose que j'aime énormément, c'est l'adéquation qu'il y a entre le tempo et le type de phrasé. C'est-à-dire, c'est assez allant par rapport à d'autres versions de Skerrié. Et en même temps, le génie de Bach, tu disais que tu avais à peu près toute la musique là-dedans, c'est aussi de créer ces phrases extrêmement lyriques qu'on aurait envie de surchanter, de surjouer, comme quand on apprend le piano et qu'on te dit dans une fugue qu'il faut accentuer l'entrée de chaque voix, ce qui est ridicule. La voix existe par elle-même. Pichon arrive à faire quelque chose d'exceptionnel, c'est de donner au tempo une direction, mais sans jamais surjouer les choses. Et c'est peut-être pour ça qu'on entend tout. Et quand tu parles de complexité, je suis absolument d'accord avec toi. Alors, on va rester sur un interprète mythique de Jean-Sébastien Bach, mais ici, dans notre répertoire, puisqu'il s'agit de Jean-Philippe Rameau, joué par Gustave Léonard. Tu nous en dis un petit peu plus ?
Là encore, c'était une sorte d'extrême inattendu. Léonard, ça aurait été presque un cliché de le programmer dans Bach. Sa musique, chevillée au corps. Rameau, pour lui, et ça m'a d'ailleurs toujours surpris, ça éclaire cette face cachée de Léonard. Alors j'en parle au passé parce que c'est un interprète qui nous manque maintenant, mais qui m'a toujours, très sincèrement, plus parce qu'il m'intriguait. Je pensais pouvoir le résumer à le cliché que j'avais de lui, avec ses mantilles, son manteau, son air sérieux, son goût des petits cachets. Je ne parle pas des cachets d'aspirine, mais des cachets...
Des salaires,
on va dire. Des salaires, exactement, vraiment. C'était presque janséniste, au service de la musique. C'est toujours été une suprême élégance, je trouve, de l'interprète face au répertoire. Mais il y avait une face cachée qui m'a toujours plu aussi. Le goût des voitures, des femmes, de la polémique. Et puis, certains compositeurs que je n'aurais jamais attendu. Rameau s'en est un. Et puis le deuxième, c'est Carl-Philippe Emmanuel Bach, qui est certainement, dans certaines symphonies, l'un des plus enflammés. Et Léonard, bizarrement, est un des plus époustouflants au moment de diriger cette musique. Alors, j'ai choisi ce prologue parce que... Il m'intéresse à plusieurs points, mais on passe du bruit à la musique. Et ça, là encore, je suis totalement transporté par ce coup de génie ramiste, passer d'une peau, de percussion, d'un tambour vers la musique. C'est une sorte de création du monde. J'espère qu'en tant que compositeur, ça te parle, mais je pense bien que de cette matière informe, j'espère qu'aucun percussionniste m'entend, mais de ce son qui n'est pas encore fait peut naître la musique. Ça, je trouve que c'est vraiment un élan de génie absolument incroyable.
Alors, le percussionniste repenti que je suis, ravi d'annoncer Zaïs de Jean-Philippe Rameau. Thank you. Il ne s'agissait pas de la pièce de Gérard Griset, Le temps et l'écume, qui commence par des grosses caisses d'où émergent des strates harmoniques, mais bien du début de Zaïs de Jean-Philippe Rameau, ici sous la direction de Gustave Néonard, qui fonctionne absolument sur le même principe. On passe du bruit blanc, enfin du bruit coloré des tambours, à quelque chose d'harmonique. Tu veux dire que Rameau serait le grand ancêtre de la musique spectrale et de la musique française, finalement?
Ah, évidemment. Et tout à l'heure, on parlait de programmation, mais on a fait un très très beau cycle Rameau-Griset, dont j'étais fier, parce que ça traduisait cette idée-là, de partir de l'intérieur du son pour faire naître un monde sonore, alors que ce soit une harmonie ou un monde spectral, qu'importe, mais en tout cas partir d'une sorte de source originelle pour en faire naître des mondes différents. Ça, oui, c'est une idée intéressante.
France Musique.
Bon, Emmanuel, je suis particulièrement gêné parce que tu as décidé de passer ma propre musique. Alors, c'était une interdiction dans cette émission, mais puisque ça vient de toi, je ne pouvais que l'accepter. Je n'ose pas te demander pourquoi tu as voulu passer cette pièce.
Oh, tu n'oses pas, mais je vais quand même te le dire.
Allez.
C'est un moment particulier, et puisque tu es la gentillesse de m'inviter, c'est un peu personnel, mais je voulais quand même partager ce moment, et peut-être que tu ne t'en souviens pas, mais moi je m'en souviens très très fort. Tu étais à la Villa Médicis, je ne te connaissais pas très bien à l'époque, et tu nous invites avec Corinne, ma femme, dans ton antre, dans ton atelier de compositeur, dans ce lieu qui est absolument incroyable, que je découvrais pour la première fois. Tu nous installes dans ton atelier où on sentait bien que ça débordait de musique dans tous les sens et tu nous passes cette œuvre, Mit Ausdruck. J'ai eu une des plus grandes claques de ma vie. J'ai pas peur de le dire, même si c'est un peu idiot de le dire devant toi, mais j'étais totalement subjugué, renversé, époustouflé, admiratif, séduit par... le talent, par la créativité, par le monde sonore que j'avais sous les yeux, et j'avais l'impression d'une empreinte totale. C'était un tout petit lieu avec d'énormes enceintes et je me disais, c'est un type qui voit grand. Et je pense que l'avenir ne l'a pas vraiment démenti.
Je me garderai bien de faire quelques commentaires que ce soit. On écoute donc la fin de Mit Ausdruck, pièce que j'ai écrite il y a plus de 10 ans, par Alain Billard à la clarinette basse et l'orchestre symphonique de Bamberg, dirigé par Jonathan Nott. C'était donc la clarinette basse magique d'Alain Billard et l'orchestre merveilleux de Bamberg dirigé par Jonathan Nott dans cette œuvre qui s'appelle Mittausdruck, que j'ai écrite il y a quelques années et qui est en fait un hommage à Schubert, toi qui aimes bien justement le rapport entre les histoires musicales, entre les références, entre les époques, puisqu'il s'agit de citations de leaders de Schubert ici transcrites pour orchestre. Allez, on va revenir à Jean-Sébastien Bach. Comment on peut en parler avec distance et affection puisque tu as décidé d'écouter une cantate, la 146, la symphonie d'ouverture de cette cantate, dirigée par John Eliot Gardiner, à la tête de son ensemble, les English Baroque Solists. Encore Bach et encore une introduction. Tu veux encore nous amener vers la complexité séduisante de cet compositeur mythique ?
C'est vrai que ça fait beaucoup d'introductions, beaucoup d'ouvertures.
On est à la période où on passe son Bach, c'est un petit peu normal, remarque.
Je réponds pas. Non, ce qui me fascine dans ce morceau, c'est que j'ai l'impression d'avoir le concerto pour orgue que Bach n'a jamais écrit. Et ça m'a toujours paru étrange qu'on n'ait pas plusieurs concertos pour orgue, alors que ça a été son instrument, qu'il en a écrit dans toutes les cantates, etc., etc. Et quand j'ai entendu ce prologue concertant de cette cantate, je me suis dit, mais oui, mais c'est bien sûr, voilà certainement la seule trace où il s'est lâché, où il s'est fait plaisir. Il a osé se mettre en une position concertante, ce qu'il avait quand même toujours bien gardé de faire, sachant qu'il était au service de Dieu, de sa musique et des autres.
Thank you. quelques années avant Francis Poulenc, qu'un autre compositeur a écrit pour orgue et orchestre. Il s'agissait de Jean-Sébastien Bach dans ce faux concerto, mais une vraie cantate, la 146. Il s'agissait de la Sinfonia d'ouverture dirigée par John Eliot Gardiner à la tête des English Baroque solistes. Emmanuel, j'ai l'impression que tu prends cette émission en otage, puisque après avoir imposé l'écoute de ma propre musique, ce qui est un tabou, maintenant tu as proposé d'écouter un extrait surprise.
Alors ça fait beaucoup dans les transgressions, je m'en excuse, mais j'assume totalement.
C'est ça le programmateur, c'est qu'à un moment, on vient pour jouer du Schubert et on repart en jouant du Boulez.
C'est mais je pense que tu es trop habitué à guider les gens et à être à leur service, donc je voulais te faire découvrir un morceau qui m'a beaucoup amusé, qui de plus est interprété par un des orchestres les plus fascinants au monde, au son le plus cristallin, le plus élégant, c'est la grande tradition de Dornani, de Zell, de Boulez, c'est l'orchestre de Cleveland, avec un des chefs les plus incroyables, Rin Mazel, qui n'a de cesse de s'amuser, mais ils ont eu aussi quelques écartades dans leur carrière, et ça peut donner ça.
C'était le boléro de John Cage, le boléro d'Edgar Varèse. En fait, non, c'était quoi au juste, Emmanuel ?
C'était de Serge Lama, La salle de bain, interprété surtout par l'orchestre de Cleveland, avec Laurine Mazel à sa tête. Incroyable.
Écoute, c'est une magnifique surprise, la surprise étant la source de plaisir. Numéro 1 en musique pour moi, je ne pouvais pas être plus ravi. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir été mon invité pour cette émission.
Merci.
C'était les menus plaisirs d'Emmanuel André. Merci à toute mon équipe. L'attaché de production était Annie Comier, l'ingénieur du son Jean-Michel Bernot, et à la réalisation, nous avions Cyrielle Weber. Dans quelques minutes après les communiqués, vous retrouverez le journal de 19h, puis Édouard Fauré-Colfuti et ses carnets de voyage. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain, toujours à 18h sur France Musique, pour un nouvel opus de mes menus plaisirs. Au revoir.